d'autre, les pieds dans la boue collante, avec sac à dos, tente, matelas, bidon d'eau, nous étions heureux d'arriver, avec tous les autres, avec le vent et le ciel chargé de nuages gris. Nous nous sommes dispersés, nous nous sommes cherchés, nous nous sommes trouvés, nous cherchions des informations. Le campement était bien planté dans la boue. Barnum, toilettes sèches, infokiosque, infirmerie et tente de la base arrière. Informations qui circulent partout. Les pieds dans la boue collante, dans l'attente du départ, nous nous regardions, malgré les casques, les lunettes, les masques et les cache-nez. On nous a attribué des couleurs pour se retrouver dans un cortège. Loutre jaune, les rapides et offensifs, anguilles turquoise, vitesse moyenne, outardes roses, les plus tranquilles, routes plus courtes. On a formé des binômes, des trinômes, des groupes et des grappes, et chacun s'est mis en route, dans un mouvement souple, les pieds dans la boue. Nous avons regroupé nos corps, ensemble, en désordre et dans un même sens, dans un grouillement joyeux et grave, ensemble, les outardes guidées par un grand totem oiseau de bois et de ruban, tête ronde et bec fin dans le vent dressé, porté sur les épaules d'une quarantaine de personnes, et nous savions que nous partions rejoindre la bassine, à travers champs. Entrer dans la zone interdite, rejoindre la bassine, nous devinions que les forces de l'ordre seraient là, là-bas, et même sur notre chemin. Et chacun a rejoint son cortège en grouillement dans la boue et le vent, et a pris son trajet, en suivant d'abord la outarde rose, puis l'anguille turquoise, puis la loutre jaune. Dans ce groupe, beaucoup vêtus de noir, mais au milieu, une batucada de filles en rose. Beaucoup de blocs, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Beaucoup ensemble, nous nous sommes élancés, les pieds dans la boue collante, la tête haute, le mollet alerte. Beaucoup, dans les bleus de travail, dans les caouets noirs, masqués ou à visage découvert, avec des drapeaux, des banderoles, des pancartes, des casseroles. Nous nous sommes mis en marche, grouillant, riant dans la boue. Nous avons pris des chemins, nous nous sommes parlé, beaucoup chanté, d'autres en silence, les pieds dans la boue. Certains sifflaient le blé en herbe entre leurs pouces, les pieds dans la boue, des chants aux lèvres, des percussions, des jambes bondissantes, des poings levés. Nous avons marché à travers champs, sauté des petits ravins. Nous avons marché avec les grands nuages gris du printemps grondant au-dessus de nos têtes. Nous avons marché dans les grandes cultures, ensemble, avec nos casques, masques et lunettes, avec les cheveux au vent, les pieds dans la boue, les pieds dans le blé en herbe, dans le colza plein d'engrais. Nous avons traversé des terres humides et lourdes, d'autres plus sèches et pleines de cailloux, d'autres encore presque sableuses. Nous avons bien regardé tous les cailloux comme des promesses. Nous rions beaucoup. Certains portaient une lourde banderole roulée sur leurs épaules, d'autres des boucliers de plastique, d'autres encore un son de système bien vrombissant. Les tambours continuaient de résonner, les chants à nos lèvres, l'outre des terres est en colère, l'outre des terres est en colère, l'outre des terres est en colère. Les pieds dans la boue, le regard au loin, nous voyons le cortège s'étirer, loin, loin devant, loin, loin, loin derrière, bleu et noir, les hélicoptères tournaient dans le ciel. Le regard au loin, les corps en marche, bleu et noir, nous étions cette foule qui marche dans son corps de foule en meute, sur des kilomètres, certains se comptaient, le petit doigt en l'air, d'autres se reconnaissaient et se retrouvaient par hasard, d'autres se parlaient dans le hasard du flux du mouvement qui nous tenait ensemble, en cortège, en grappe, en foule noire et bleue, les pieds dans la terre à travers les grandes cultures dans la terre abîmée, nous nous sommes rencontrés, et notre marche était longue et puissante, sur des kilomètres, élancée et joyeuse. Nous ne savions pas exactement où elle nous emmenait précisément dans le territoire, sans repère dans les grandes cultures à perte de vue, les pieds dans la boue à suivre les autres corps en bleu et noir. Les hélicoptères tournaient dans le ciel, guidés par la voix dans le mégaphone, par les chants et le vent sur le chemin, puis encore les pieds dans la terre à travers champs, nous étirons de toutes parts dans les champs, emplissant l'horizon derrière et devant, emplissant les champs de notre marche vibrante, sur des kilomètres ensemble, souples et joyeux, les hélicoptères tournaient dans le ciel. Et quand nous avons vu, loin à droite et loin à gauche, dans les grandes cultures, les deux autres cortèges, les anguilles et les outardes, converger vers un point en face, à l'horizon, nos corps se sont encore plus soulevés, les pieds dans la terre, nos corps bleus et noirs, comme le ciel dans le vent, nos corps de foule en marche après des kilomètres, les chaussures et les bottes lourdes de terre, les nuages lourds mais rapides, les rythmes lourds et résonnants du son de système, des chants surgissant par moments, des drapeaux flottant dans le ciel, les corps en marche en avant, dans les grandes cultures, les slogans dans le vent, les pieds dans la boue, nous avons convergé vers la bassine, poursuivant la longue marche souple et déterminée. Les hélicoptères tournaient dans le ciel, la bassine se dressait au milieu des champs, son remblai horizontal, se dressant sur l'horizon plat, et sur ce trou fortifié, les corps dressés des forces de l'ordre, et la foule des deux autres cortèges, souples et mobiles à droite et à gauche, se rapprochant, et notre marche est alors devenue plus rapide, certains traçant devant en grappes noires, vives et précises, cœurs battants, chants aux lèvres, cris d'élan, pieds dans la terre, vers la bassine, déjà fumante de gaz, les hélicoptères tournés dans le ciel, nos pas vifs dans la terre, plus rapides, ensemble, dans l'élan, le cœur soulevé, le vent dans le corps, les corps noirs des forces de l'ordre autour du grand trou, invisible derrière son remblai. Nous y étions presque, nous la voulions. Certains criaient, allez les gueux, ce que nous étions, les pieds dans la terre, nos corps noirs et bleus, noirs de colère, nos corps fluides de l'eau qui se défend. Allez les gueux, l'outre vénère, anguille furtive, outarde légère. Nous avons convergé, nous étions tant et tant, 20 000, 25 000, 30 000 circulés comme chiffres, peu importe. Nous nous savions nombreux ensemble, notre présence ensemble était notre nombre, emplissant l'horizon. Dressés dans la terre, nous étions la foule des gueux, dressés en avant. Notre nombre était notre force. Nous sommes si nombreux, disaient certains, regardant l'horizon où se dressaient les autres corps bleus et noirs. En marche, ensemble, notre présence fait nombre, fait force. Dressés dans la terre, la foule de notre présence. Ensemble, notre nombre dans le vent, dans le mouvement de notre nombre soulevé, dans la terre à nos pieds, dans nos bras en avant et nos cris chantants. Il n'y avait plus qu'un ravin serti d'une haie à passer pour arriver sur un chemin de terre surplombant le champ, et nous y étions. Les hélicoptères tournaient dans le ciel. Nous nous sommes élancés dans le champ, le grand trou fortifié droit devant, nous nous sommes dispersés autour, nous y étions dans la bataille, car déjà les gaz et le canon à eau, le son de système à fond posé au milieu de l'herbe, au milieu des gaz, nous avons projeté nos corps par petits groupes et grappes vives et mobiles, et les explosions dans la terre, nous enterrions les grenades, et la fumée soulevée par le vent, nous ramassions des pierres. Nous, les loutres, voulions rejoindre les anguilles qui étaient sous les feux, les hélicoptères tournaient dans le ciel, les blocs se sont élancés, avec leur courage magnifique, leur vélocité frontale. Ils y sont allés, au feu, dans les gaz, banderoles, béliers et carapaces de parapluies, et toute la foule de nos corps suivait. Les anguilles tentaient d'encercler la bassine, calmement rejoint par les outardes. Mais nous avons convergé vers le trou fumant des tirs des forces de l'ordre, le trou cerclé de barrières de fer, encerclé d'un cordon de camions, et la foule grouillante autour. Nous y sommes allés, en avant, ensemble, avançant dans les gaz, dans le sens du vent, en avant, ensemble, pour briser le cercle de fer et de camions en feu, sous les tirs, les explosions, enterrant de nos pieds les grenades, les hélicoptères tournaient dans le ciel. Le champ était le lieu de la bataille, au pied du trou, sous le grand ciel gris et les fumées. Nous y sommes allés, avec nos corps légers, bleus et noirs, avec le vent, dans les gaz, plus noirs que les corps des forces de l'ordre, plus bleus que leurs camions, ensemble à travers les tirs et la terre soulevés d'explosions, poussés par le vent, qui repoussait les gaz vers l'envoyeur. Nous rions derrière nos masques, ensemble, nous chantions. Nous ne lâchions pas nos binômes, nos grappes, nos yeux derrière les lunettes, nos épaules dans nos mains. Nous chantions, nous guettions les trajectoires des grenades dans le ciel. Nous sautions avec la terre soulevée. Et nous avons vu certains tomber, d'autres avancer, d'autres reculer. Ensemble, grouillant, nous nous tenions derrière, en avant, entre les grenades, sautant, bondissant. Ensemble, dans les explosions, dans les mottes de terre soulevées. Et les corps tombant, les cris dans la fumée, les appels, les corps explosés, les têtes en sang, les hélicoptères tournés dans le ciel. Un bref moment de silence. Et entre les panaches de fumée, un homme debout, crâne rasé, avancé, titubant doucement, la bouche grande ouverte, rougeoyante, le grand trou rouge de sa bouche pleine de sang. Et une autre grenade est arrivée, et la fumée, et l'homme à la mâchoire rouge fracassée, emmené par les casques blancs, et la terre explosée, les camions en feu, les feux d'artifice, les corps projetés, les banderoles boucliers, les parapluies en avant, les cris de joie quand une petite colonne a enfoncé les forces de l'ordre pour rejoindre le trou fortifié, le vide de leur ordre, la force vide de leur trou, cerclé de fer et d'armes de guerre, le trou bête et béant de leur force refermée, la force bondissante et multiple de notre nombre, leur ordre vide fortifiant ce trou, crachant gaz et LBD, notre désordre de vents et de terre, grouillant vivant de colère. Les hélicoptères tournaient dans le ciel. Combien de temps cela allait-il durer, derrière, en avant, sur les côtés, les sifflements dans la tête, les explosions dans nos poitrines, les gaz dans nos yeux et nos gorges, nos gorges grouillants ensemble de colère soulevant nos pieds. Leurs armes sont trop dures. Nous voulions avancer. Nous n'avions que des pierres, des feux d'artifice, des parapluies et des boucliers de plastique. Nous voulions tenir. Certains tombaient encore, d'autres avançaient. Nous voulions continuer. Leurs chars, leurs tirs, leurs barrières et leurs camions nous repoussent. Nous sommes des gueux, les pieds dans la terre, les pierres à la main. Nous ne savions pas qui était touché, combien, juste qu'ils et elles étaient nombreuses. Nous ne savions pas tout le sang. Nous ne savions pas l'attente des secours, les appels, les procédures, la préfecture, les ordres, les contre-ordres, les barrières. Nous ne savions pas, nous, sautant dans la terre entre les explosions, nous ne savions pas encore combien de temps tenir dans le bruit et le vent. Et voilà leur quad surgissant par derrière, leur moteur, leur vitesse, leur gaz, partout. Nous ne voyions plus rien, nous ne pouvions ni avancer, ni reculer. Alors, par grappes et groupes, mains sur les épaules, ensemble, aveugles, ensemble, nos corps prennent la tangente sur le côté, refluent vers le chemin de terre, quittent le champ de bataille. Nous avons reflué pour reprendre des forces, pour rassembler nos corps encore plus ensemble, pour reprendre du souffle. Nous nous sommes assis dans l'herbe, gigantesque pique-nique face aux trous fortifiés, les silhouettes des forces de l'ordre toujours aux aguets, la fumée noire des camions carbonisés, les blessés sur les bords des chemins, certains se cherchaient, d'autres circulaient en s'appelant par des petits jappements, d'autres criaient des noms de code. Nous reprenions notre souffle, partageant de l'eau, du pain, des gâteaux. Certains jouaient à la pétanque avec les grenades lacrymogènes. Nous reprenions des forces, mais elles ne seront pas suffisantes. Trop de blessés, plus assez de médics, nous ne pouvons pas y retourner. Alors nous avons pris les chemins du retour, les pieds lourds et fatigués, dans la boue, les cœurs dans la boue, lourds, les corps fatigués de fumée, les oreilles sifflantes. Nous aurions voulu poursuivre, dans la boue, dans la fumée. Nous le pouvions, dans notre nombre grouillant, dans nos élans. Mais nous nous sommes préservés, les uns les autres. Nous nous sommes ensemble rassemblés dans la vie sauve, dans le soin de chacune et chacun, dans la vie debout, dans la terre, dans la calme fatigue de nos corps. Le retour s'étirait, avec notre tristesse. Un petit groupe, abrité par la foule en grappe, a réussi à saboter des tuyaux. La nouvelle a couru dans le long cortège, un petit vent de joie légère galopante dans la lourdeur de nos pas, une petite revanche de gueux. Nous savions aussi que d'autres avaient planté des haies entre les grandes cultures pour que le vent puisse danser et l'eau s'écouler. Les corps fatigués s'arrêtaient sur les bords des chemins. Certains roulaient de l'herbe, d'autres mangeaient dans les champs, d'autres chantaient de vieux chants révolutionnaires et nous fredonnions avec elles les airs de ces vieilles batailles si vivantes. Les airs de ces luttes qui nous avaient été transmises depuis les terres d'Espagne, d'Italie ou d'Ukraine. Ces vieux airs soulevaient de leur force douce nos corps fatigués et portaient de leur rythme nos corps embourbés, les larmes aux yeux de certains, les rires des autres, les récits des manifestations sauvages dans les rues de Paris les jours d'avant, dans les bouches des unes, le silence des autres. D'autres parlaient de leurs recherches en sociologie, d'autres ne parlaient plus. Le chemin était long de notre tristesse. Nous nous demandions ce qui avait eu lieu, d'autre que le champ de bataille, une bataille de gueux. Nous pensions au monde Tipiton, au Seigneur des Anneaux et aux stratégies napoléoniennes. Nous pensions aussi à l'Ukraine. Nous cherchions des mesures, des images, des cartographies. Sauf que nous ne savions pas encore le nombre de blessés. Nous ne savions pas encore la sale boue médiatique qui serait déversée par la force de leur ordre, par leurs mensonges et leurs dénis, sur la marche de nos corps, sur nos chants et nos élans, sur les pulsations communes de nos souffles, sur nos mains liées et poings dressés, sur nos espoirs soulevés, sur l'intelligence collective de nos résistances, sur la force et la douceur de nos idées, sur la justesse de nos coordonnées. Nous ne le savions pas encore, mais nous le savions déjà. Et nous nous sommes retrouvés au camp que nous avons levé, tandis que les blessés débordaient des tentes, et nous nous sommes retrouvés dans le village plus loin, après avoir encore marché jusqu'aux voitures, puis roulé sur les petites routes la nuit tombante, en échappant au contrôle quand nous le pouvions. Les hélicoptères tournaient dans le ciel. La pluie tombant sur notre fatigue, nous nous sommes retrouvés pour manger et chanter et danser ensemble, danser toute la nuit sur la défaite de leur ordre, aussi vide et moche que cette bassine. Danser l'eau en mouvement qui ne supporte pas d'être enfermée. Danser la terre qui se soulève pour mieux respirer. Le lendemain, je suis repartie seule dans ma voiture, pleine à l'aller, les jeunes que j'avais emmenés, avait trouvé d'autres voitures pour entrer. Je suis repartie par les petites routes des Deux-Sèvres et de la Charente, en évitant les contrôles, en suivant mon GPS, dans les grandes lumières de l'ouest, traversée de grandes averses et d'éblouissements célestes, en écoutant de la musique baroque à la radio, les scintillements de la pluie et de mes larmes mêlées, la fatigue brouillant le pare-brise et le visage de Darmanin, debout dans sa petite chemise sur les bancs de Sciences Po Lille, juste deux rangs derrière moi, revenant dans ma tête. La petite tête de Darmanin qui éructait en parlant de recours au tribunal administratif quand nous bloquions l'IEP durant le mouvement contre le CPE. Le corps de Darmanin dans sa cellule de crise à Beauvau et mon corps dans la boue de Sainte-Soline. La bouche pincée de Darmanin et ma bouche ouverte sous mon masque dans les explosions des grenades. Le corps mort de Darmanin dans son costume tournant sur les écrans et nos corps vibrant dans la terre et le vent.
J'ai hâte d'arriver à la bassine. Je chante rempli d'eau, les chaussures en sont de même, à la vue, des litres de bleu. De loin, je vois des points noirs, c'est des camions. Il y en a un paquet, tout autour de la bassine. On s'arrête dans un champ pour partager un wrap houmous, carottes et choux. Pas le temps de s'installer, que je vois un nuage blanc derrière moi. Avec le groupe, on se lève, tant pis pour le pique-nique. On avance, une vingtaine de quads arrivent, lacrymo au rendez-vous. Je perds mon groupe. Tout se précipite, on arrive à la bassine, déjà des camarades proches des flics. Même pas le temps de me dire qu'on y est, une grenade. Je lâche mon bouclier, je mets mes mains sur les oreilles. Je sais plus ce qui est en train de se passer. Désorienté, deux camarades me prennent en charge. Terrifiant. J'entends mal, je suis sonnée. J'attends un peu que je reprenne mes esprits, mais rien ne s'est stoppé. Le champ est devenu bataille. Des cris, des grenades, ça court, et puis des lacrymos. Un flux tendu qui a duré, j'en sais rien, aucune notion du temps. Les grenades continuent de tomber. Mes oreilles sont bouchées, pourquoi j'ai oublié les boules caisses? J'angoisse pour les camarades qui sont devant. J'espère qu'ils vont bien, qu'ils sont pas blessés. Dans cette atmosphère anxiogène, j'entends crier « Ventoline !» Les gens paniquent, j'en fais partie. Je vois les médics courir partout. Des visages passent à côté de moi, fracassés. Grosse erreur de les avoir regardés. C'est devenu en un instant l'apocalypse. Une grenade tombe encore, courir pour l'éviter. Je mets en mode robot, survie, instinct, sinon rien. Je retrouve du monde, je les prends dans mes bras, comme si eux aussi étaient entre la vie et la mort. Les regards, les gestes et les plaies, tout est vif. Je crois que j'ai eu peur de mourir.
C'est un appel un petit peu pour chercher d'abord le proche de Serge, s'il est là dans la foule et qu'il veut lire le texte, qu'il n'hésite pas à venir pour lire le texte après mon texte. Voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. Du coup, moi, je vais faire une prise de parole pour les médics qui étaient à Sainte-Soline. Quand on est médic, on est pour la plupart pas médecin, on est avant tout militant. Des militants qui ont choisi d'exister dans cette modalité pour aider la lutte. Parce qu'on pense que les modes d'action utilisés par les blocs sont légitimes et qu'on sait que malheureusement, répression il y aura. Alors on se mobilise pour la cause. À Sainte-Soline, ce sont des médics de partout en France qui ont afflué pour prêter main forte. Je me rappelle le matin même être parti l'esprit serein, me disant qu'on était hyper nombreux et déter, que la base arrière était badass, qu'on avait une ambulance, une infirmerie, que tout irait bien. On arrive, tout se précipite. Les mottes de terre giclent dans les airs, comme à la guerre. Les cris s'affairent. Une grenade lacrymo explose juste à côté de moi, au sol, alors qu'elle devrait être en l'air. Ils nous visent. Pas le temps d'avoir peur, on a une mission. On court au son du médic et on ne s'arrête plus. On prend les gens en charge, on limite la casse, on ne parle pas. On se concentre, on ne parle pas. De l'horreur qu'on voit, des cris, des grenades qui tombent. On court et on soigne, pendant deux heures, sans jamais s'arrêter. Quand ça pleut, on protège avec nos corps. On ne pense pas à nos proches, on ne pense pas tout court, on n'a pas le droit de craquer. Le médic est comme un leitmotiv, il frappe à nos oreilles au même son que les détonations. Il faut protéger nos camarades, eux qui ont le courage et la bravoure d'aller au front, avec des cailloux et des artifices et des coques, avec le pouvoir de la main face à des armes, de guerre, protégés par des bouts de bâche et de plastique face à des armures. J'avais jamais vu autant de blessés, jamais vu autant de plaies si profondes. Nos camarades du bloc qui voulaient juste protéger le cortège, se défendre, avancer. Celui dont on peut dire tant de mal et tant d'énormité, alors qu'il est là, en campagne, se battant pour le bien commun, pour l'eau, pour provoquer un putain de changement dans cette société mortifère. C'est eux qu'on tue et qu'on mutile. Eux qui ont tant de courage d'oser refuser l'inaction, de se mettre devant une lutte qui ne peut plus agir en respectant les interdictions de l'État. Nos camarades qui voulaient rester derrière. Nos camarades qui voulaient rester derrière, eux, pour faire masse, apporter du soutien, qui ont subi la répression de la même manière, chargés par les quads, tirant au hasard sur la foule, bombardés pour avoir lancé des cailloux et des feux d'artifice sur des soldats équipés et surprotégés, pour s'être battus pour leurs convictions. Car tout ce qu'on a de plus que ceux qui nous répriment, c'est notre détermination. Parce qu'on se bat pour quelque chose auquel on croit. On ne suit pas les ordres aveuglément. On sait pourquoi on est là. C'est pour cela qu'on semble déterminé, battant, fougueux. C'est pour ça qu'on continuera de se battre encore et encore. Les blessures de nos corps et de nos esprits ne sonneront pas la fin de nos mobilisations. Les menaces judiciaires nous pousseront à continuer le combat. On ne lâchera pas, jamais.
texte publié sur le site internet de terrestre.org, Sainte-Soline, repenser nos stratégies de lutte depuis une logique d'autonomie et de soins. Quelle place fut laissée à la tristesse et à la rage des conséquences humaines de cette action et à l'humilité après l'action du samedi. Le soir, certaines personnes en détresse sont allées à l'infirmerie psychologique. D'autres sont parties directement après l'action. D'autres sont allées au concert. Certaines ont essayé tant bien que mal de se mettre à l'écart du son pour prendre soin d'elles. Il n'y a pas eu d'espace de débrief collectif, si ce n'est un débrief psychologique en interne le dimanche pour les médics. Trop compliqué à cause du nombre, à cause des possibles conséquences psychologiques des prises de parole. Si les prises de parole ont bien parlé de la violence de la répression et ont demandé un temps de silence pour les blessés, des paroles publiques ont aussi réactivé l'imaginaire du sauveur. Vous êtes des héros. Associé à des comparaisons douteuses. Il n'y avait jamais eu un tel niveau de violence policière depuis 1979. Cet imaginaire guerrier a continué à être diffusé, prenant le risque de mettre de côté celles pour qui la confrontation fut juste violente et au risque de rejouer des hiérarchies déjà existantes. Sur les enjeux d'action offensive et de validisme, par exemple. Face à la violence de la répression et le sentiment d'effroi en rentrant de l'action, nous aurions aimé qu'il y ait de la place pour les différentes émotions qui nous traversaient, individuellement et collectivement. La décharge euphorique et festive est une manière de gérer cette violence. Il y en a d'autres qui peuvent potentiellement mieux convenir à certaines personnes. Nous pensons qu'il est important que la décharge festive ne prenne pas toute la place. Laisser de la place à la tristesse, la colère, l'incompréhension, la peur. Cela aurait peut-être aussi signifié accepter de changer le programme, réorganiser les choses prévues pour laisser de la place à tout ce qui change à cause de cette violence. Facile à dire après coup. Nous espérons que pour les prochaines fois, nous saurons collectivement mieux comment nous soutenir suite à l'action.
Toi, t'étais au moment où il y a eu les retours publics ?
Ouais, j'étais là, mais c'est vrai que... Bon, déjà, j'entendais pas très bien, et puis... Il y a eu genre 30 secondes de silence. Là, j'ai vu une meuf que je connaissais qui pleurait. Voilà. Enfin, que je connaissais pas très bien, mais en fait, je sais pas, ça m'a touchée. Je me suis dit, ah ouais, ça... J'avais l'impression pas forcément qu'elle pleurait... Que pour ce qui venait de se passer, tu vois, qu'il y avait un truc aussi de... Je sais pas, d'un vécu de la répression, je sais pas qui...
Mais tu penses qu'il aurait dû avoir des trucs mis en place plus clairs, que ça pourrait être plus clair des choses, des endroits d'expression après une lutte comme ça?
Ouais, je pense qu'il aurait pu avoir une salle ou un peu installée où il y avait moyen de se poser, enfin ça faisait un peu de passer d'un truc quand même assez dur, assez boueux, assez machin, à un truc quand même de festival où bon, c'était pas la folie, mais... Mais qu'il y avait quand même un gros décalage entre les deux et que ça me parle aussi ce texte sur un peu l'imaginaire guerrier de se dire on va tout niquer, on va tout faire. Enfin, je sais pas, c'est. Je sais pas, c'est pas que ça quoi. Du coup, ce truc guerrier, c'est ça aussi qui nous a amené à se sentir puissant et à saccager toute la nature, enfin, que du coup pour moi aussi il y a quelque chose d'une transformation de penser notre rapport aux choses, aux autres qui doit se faire autrement, même si. Et puis bon, c'est le côté absurde de cette bassine vide là, enfin, ça faisait vraiment forteresse militaire gardée, et que je sais pas moi que j'étais. Enfin, qu'il y a eu un moment où j'ai un peu perdu le sens de pourquoi j'étais là quoi. Je me disais, mais est-ce que je continue à me rapprocher, de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est plein, mais il y a plein de gens qui sont hyper loin. Enfin, il y avait vraiment un fossé à traverser. J'ai l'impression que c'était pas que s'il y avait un fossé métaphorique et réel, quoi, qui fait que je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas traversé et qu'après, du coup, qui sont restés très loin et que. C'est un peu dommage que ce nombre de personnes qu'on était, ça n'ait pas permis autre chose, je crois.
Tandis que l'étau de la répression se resserre sur les soulèvements de la terre, la priorité est à la solidarité, à la riposte juridique et aux soins des blessés. La question de savoir comment ne pas reproduire une telle hécatombe paraît néanmoins urgente.
Ce qui suit est une série de propositions afin de continuer à se renforcer mutuellement et faire de la place à toutes dans un contexte d'action de masse. Comment faire plus de place à la diversité des tactiques et à la spontanéité dans un tel contexte? Pensez les enjeux d'inclusion. Inviter 25 000 personnes partageant des cultures politiques et d'organisations différentes implique de penser cette diversité et de s'appuyer dessus. C'est une force, à condition qu'on lui donne les informations et les moyens nécessaires pour se déployer. Laissez place à la créativité. Cette action présentait notamment deux grandes forces, notre nombre et une importante présence médiatique. Nos tactiques auraient pu chercher à plus s'appuyer là-dessus, par exemple en tournant en ridicule le dispositif de répression le samedi, nasser la police et la bassine avec, etc. Comme nous l'avons déjà mentionné, certaines actions différentes ont été organisées durant le week-end. Plantage de haies par la Confédération paysanne, par exemple. Elles auraient gagné à être plus nombreuses et ou surtout à être plus visibilisées, sans hiérarchie. Le contournement. Les mots de contournement ont été régulièrement employés par des propositions de tactiques lors d'actions de masse, par exemple au camp Action des Rayonnantes en 2021 à côté de Bure. Dire que l'on souhaite au maximum contourner la police plutôt que l'affronter permet de décaler le focus de l'action. L'objectif n'est pas la police, mais ce qu'elle protège. La tactique du contournement fait la part belle à la ruse, à la surprise, à l'inattendu. Parfois elle échoue, et on sait qu'on réessaiera une autre fois. Parfois elle réussit, et on se grise d'avoir mis la police en échec. Nous voudrions conclure sur deux éléments. Le premier, c'est que l'action de Sainte-Soline nous a donné l'impression qu'un fossé existait entre une base arrière qui promeut et met en œuvre des dynamiques de soins et le manque important de réflexion à ce sujet en termes d'organisation, d'action et de tactique. Voyons le travail énorme réalisé par la base arrière les semaines précédant l'action, tout le travail de prévention, de coordination, visant à ce qu'un maximum de personnes se sentent en confiance pour participer. Nous avons été très surprises, jusqu'à l'incompréhension, de ce que nous avons compris des choix stratégiques et tactiques, objectifs, choix, esthétiques, discours, etc. Deuxième élément. Les soulèvements de la Terre sont composés de groupes ayant différentes cultures politiques et modes d'organisation. C'est à la fois une force immense, bien sûr, construire des alliances, mais aussi une source de difficultés. Les soulèvements de la Terre ont réussi quelque chose de formidable, réunir ces différentes composantes autour d'objectifs et de stratégies communes. C'est le fruit d'énormément de temps, d'échanges, de compromis. Nous aurions aimé que ces enjeux et valeurs de soins et d'inclusivité soient vraiment défendus haut et fort comme étant une priorité, et pas uniquement par des personnes de la base arrière. Que ce soit prioritaire, et donc décliné en termes d'organisation d'action, de communication, de logique, de camp et de soirée, etc. Ce travail nous paraît d'autant plus fondamental que de ne pas le faire peut mener à des risques réels d'instrumentalisation des différentes composantes de la lutte. Sentiment qu'il pourrait exister une hiérarchie en termes de ce qui est politiquement utile ou non, par exemple. Dynamique évidemment nocive sur le long terme. Nous espérons avoir bientôt plus d'informations pour complexifier ces bouts d'analyse et envisager des réponses. Il y a des urgences actuelles qui nécessitent de l'organisation et de la solidarité massive rapide. Soins des personnes blessées, travail légal et médiatique contre la vague brutale de répression politique à laquelle les soulèvements de la Terre font face, etc. Nous rappelons que la priorité va à la lutte contre cette répression et contre l'instrumentalisation de nos combats à des fins autoritaires et capitalistes. Même s'il est difficile de savoir quand le temps de l'urgence prendra fin, il nous paraît fondamental que du temps collectif soit dédié à ces discussions avant l'organisation de prochaines actions. Nous rêvons d'actions de masse puissantes, qui cherchent un équilibre entre tactiques qui se complètent et se respectent. Inclusivité, autonomisation, soins collectifs, avant, pendant, après, tout le temps. Ces réflexions ne sont pas nouvelles, ces valeurs ne sont pas nouvelles. Confrontons nos expériences, apprenons des luttes passées et présentes, faisons preuve de créativité et d'offensive. Alors peut-être notre vision de ce qu'est une victoire politique sera différente, et peut-être alors serons-nous toujours plus nombreuses à lutter. Peut-être serons-nous plus puissantes, fières, déterres, ensemble, des amis.
Source qui tombe sur feuille morte.
Pour ma part, je n'y étais pas là-bas. Pourtant, J'ai l'impression de savoir. Tous ces récits de blessés. Il y a 2 mois, à mon retour de voyage, peinard en bateau, on m'a demandé « Tu viens en méga-bassine ?» Je ne connaissais pas encore le débat. J'ai voulu chercher, me renseigner, prendre connaissance des arguments des deux côtés, et puis le travail m'a enseveli et devenu ma priorité à court terme, pendant que d'autres se sont organisés pour envisager notre long terme. Le samedi 25 mars est arrivé très vite, et j'étais trop loin pour cette lutte, loin mon corps, loin ma tête. C'était l'anniversaire de ma mère, et boum, voilà que le soir, dans mon petit chalet auvergnat, tout à coup explose au loin la violence. 25 mars, la journée n'est pas encore terminée, que je reçois les messages des copains pendant le dîner. Le bilan va être lourd, c'est grave ce qui s'est passé là-bas, à Sainte-Soline. C'est quoi une méga-bassine ? Je lis. Ce sont de gigantesques ouvrages de stockage d'eau destinés à répondre aux besoins de l'agro-industrie. Il s'agit d'énormes bassins artificiels, plastifiés et imperméables. Une méga-bassine s'étend en moyenne sur une superficie de 8 hectares. Elles sont censées être remplies durant la période hivernale afin de permettre aux agriculteurs et agricultrices de continuer à irriguer leurs cultures lors de périodes de sécheresse. Je lis, j'écoute des trucs. Joël Limousin, membre de la FNSEA sur France Inter. Un argument est avancé, puis contredit, une étude est mise en avant, puis contredit par une autre. Il parle de 5% d'évaporation, oui mais non. D'autres articles parlent d'une évaporation entre 20 et 60%. On dit que l'eau exposée ainsi au soleil développe des micro-organismes, des cyanobactéries, qu'elle pourrait devenir inutilisable. Je lis, les méga-bassines ont un impact sur le milieu naturel et la biodiversité. En stockant une eau qui se serait infiltrée dans les sols, ou aurait ruisselé dans les cours d'eau, elle prive les écosystèmes environnants d'une ressource vitale. On dit que cette méga-bassine bénéficierait à 2 ou 3% d'agriculteurs. Alors je me dis, ok, ils font quoi avec cette eau ? C'est flou, c'est confus. On dit que parmi les bénéficiaires de ces bassines, très peu de maraîchers et d'agriculteurs bio. Pourquoi irrigue-t-on aujourd'hui ? Principalement pour produire des céréales, et notamment du maïs, qui sont essentiellement destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Je lis. En 2016, seuls 24% des céréales en Europe étaient cultivées pour nourrir directement les humains. Sortir des crispations. Je note à la fin. On s'embrouille. Je note encore. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette eau ? Aucun argument ne tient, tout est en cours. Le débat est sur la table et pourtant les travaux commencent. Et pourtant on blesse dans la chair des gens qui soulèvent des questionnements plus que légitimes, vitaux. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette eau ? Sur nos territoires de futures sécheresses, quels usages prioritaires voulons-nous ? Je lis, en cas de crise liée à une sécheresse, la gestion de la ressource en eau repose sur la réduction des prélèvements et la priorisation des usages. De quels usages avons-nous besoin ? Je lis, il faut donc avant tout sortir d'un système agro-industriel toujours plus gourmand en eau et privilégier des solutions déjà mises en œuvre par l'agriculture écologique et paysanne qui limitent leur impact non seulement sur les ressources en eau, mais aussi sur l'environnement. Un changement profond du modèle agricole et de l'aménagement du territoire est nécessaire. Moins d'artificialisation des sols, soutien à des pratiques agricoles qui restaurent les sols et leur capacité de stockage, valorisation de cultures adaptées aux conditions climatiques, appui à l'agriculture écologique et locale. Il nous faut des outils pour débattre, partager les informations. Je lis, on ne le dira jamais assez, mais le moyen le plus efficace pour réduire l'intensité des futures sécheresses est évidemment la réduction rapide et marquée de nos émissions de gaz à effet de serre. De plus, on ne pourra pas passer les prochaines situations de crise sécheresse sans une très grande sobriété des usages de l'eau. Un partage de la ressource équitable en fonction des priorités décidées collectivement et une solidarité avec ceux qui souffrent le plus du manque. Je lis. Les prélèvements pour alimenter les mégabassines peuvent allonger la durée des sécheresses. Je lis encore. La tendance à investir dans de nouvelles constructions consiste en effet à réparer un dysfonctionnement. Ici, le manque d'eau. En immobilisant du capital dans une infrastructure, au lieu d'investir pour soutenir la transition vers des pratiques moins gourmandes en eau. Les mégabassines maintiennent un modèle agro-industriel dévastateur. Un modèle inadapté face au changement climatique. Il faut changer nos habitudes. J'écris, nous vivons dans une époque et nous agissons sur le futur. C'est maintenant les grandes décisions. Un grand merci à tous les copains et les copines qui étaient à Sainte-Soline et qui nous ont défendus.
Le vendredi, nous avons roulé, roulé vers le monde, roulé vers Mel. Mel est pleine de fleurs et de gens. Le soir, sur une tribune, des gens racontent leur terre sèche, leur mort et leur victoire. Ils racontent, chacun et chacune dans son style, chacune et chacun avec sa langue, leurs actes passés et leurs présents, leur posture maintenant. Au Canada, les enfances volées, en Syrie, la lutte de la terre écrasée par la guerre, en Colombie, les forêts remplacées par les plantations mortifères, au travers du monde, toutes les paysannes et tous les paysans qui prennent soin de leurs récoltes et de leurs petits champs. Modestie des mains et des mesures, des luttes nécessaires pour les garder alertes et pour le rester. Le samedi matin, nous avons marché. Marché d'abord sur la piste du village jusqu'aux pistes des champs où petit à petit apparaissait le serpent, la longueur sidérante du serpent aux écailles humaines. Marché vers les champs, marché entre les champs, marché pendant des heures, voilà ce qu'il s'est passé. Voilà ce que nous avons vu. Une femme boite, elle s'est tordue une cheville, avance malgré tout jusqu'au point de départ où elle pourra alors s'asseoir, attendre. Des gens soudain partout se rejoignent et dans la boue des champs qui ne laissent plus s'écouler les pluies, nous avançons ensemble maintenant. Une grande animale est soulevée par les bras de petits humains et nous la suivons, nous marchons avec elle, nous marchons avec eux, nous marchons. Des chevaux montés passent au travers de champs ou loin. Nous parlons avec des voisins de procession du fait que les humains entraînent des animaux à foncer sur d'autres humains. Comment est-ce possible de trouver cela normal, légitime, de s'exercer à cela? Nous parlons avec les voisins du serpent que nous formons en marchant ensemble sur la piste de cailloux poussiéreux. Nous parlons avec les gens que nous rencontrons au hasard du serpent qui coule sur le sol comme l'eau dans la rivière. Nous rigolons et nous racontons et nous chantons et nous marchons et nous mangeons et nous avançons et cela dure des heures. Le serpent est immense au détour d'une boucle soudaine de la piste trop droite. Nous le voyons onduler derrière et devant, danse de ses marcheurs. De ses marcheuses aussi, dans le serpent il y a tout le monde, il y a tous les visages, il y a tous les corps. Nous marchons et nous traversons un petit canal d'eau en nous tenant les bras les uns après les autres et nous perdons un objet. Slurp. Aspiré par la vase. Nous marchons et nous regardons les drapeaux et nous voyons un morceau du serpent, comme le lombric coupé, poursuivre une autre route. Nous marchons et nous voyons maintenant apparaître au loin un escadron de motards en quad harnachés. Nous voyons naître au loin des fumées. Nous marchons et des chevreuils effrayés passent sur le jeu d'échecs que sont ces champs quadrillés, poussés par les grappes humaines qui ne savent plus habiter les lieux autrement qu'en effrayant, qu'en chassant, qu'en annihilant ces êtres vivants. Balayage d'images, que se passe-t-il dans les yeux de ceux qui voient le futur sans eux? Est-ce que l'argent peut vraiment remplacer le poil de l'animal, l'aile de l'insecte, la sève dans l'écorce? Est-ce que l'argent peut vraiment dessiner un paysage pérenne dans lequel imposer sa vision sans être en fait en train d'empêcher sa propre survie? Vraiment, deux points, réellement. Effectivement, en dépit des apparences. Quel réel veulent-ils, ces gens qui s'octroient le droit de décider que leur vision morbide, totalitaire, tantôt ignorance suicidaire, tantôt logique immonde, peut empiéter sur toutes les autres visions de monde ? Comment peut-on encore, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui de l'importance des arbres, du nécessaire respect du vivant et les immenses moyens dont on dispose, être suffisamment idiot pour faire ça ? Demande un jardinier. Écrasés par leur politique meurtrière, toute possibilité de fertilité, de diversité, de passage libre, de rivières, de vraies, de grandes, de belles forêts. Et puis marcher encore des heures sur la piste trop droite, entre des champs trop carrés, trop alignés, sans aucun arbre autour pour respirer, pour calmer l'étrangeté angoissante. Et puis, soudain, réaliser cela, tout est vide. Géométrie concave. L'utopie est terrible. Néant de relief, néant de mouvement, néant d'image respirante, néant vidé de substance, trou noir aveuglant. Il n'y a que des champs vides, il n'y a qu'un trou au milieu. Sidération. Il n'y a que des champs vides, il n'y a qu'un trou au milieu. Trou destiné à être rempli d'eau. Trou rectangle surélevé de terre à vif aux angles rehaussés. Sur lesquels se tiennent des silhouettes en fer, figures noires, au loin dressées, immobiles en hauteur. Au bas du tertre, des êtres. Derrière nous, un homme joue de la trompette. Peut-être un hymne funéraire pour ces lieux morbides, peut-être un hymne d'encouragement pour les gens présents, peut-être un chant de liaison entre la vie et la mort qui danse malgré elle ensemble, comme le veut la loi naturelle qui n'a rien à voir avec les règles humaines décharnantes, mais tout avec l'exubérance des lieux, l'épanouissement des existences. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir ? Se demande un éducateur. Nous voyons des gens autour du trou s'agiter, nous les voyons avancer, reculer, nous voyons fuser des objets de tous les côtés. Nous voyons des véhicules en feu et dans les oreilles tout cela explose et nous voyons le ciel se remplir de cendres. Nous voyons des mouvements, nous voyons des déplacements, nous voyons des robots, nous voyons des humains. Nous voyons l'ambulance bleue arriver, nous voyons les motards bloquer la route, nous la voyons s'élancer, nous les voyons s'écarter. Nous voyons des gens courir, nous ne courons pas, nous marchons, nous bifurquons, nous restons autour dans l'inquiète attention. Nous nous asseyons avec d'autres, nous parlons de leurs gestes, nous grignotons un bout de pain, tandis que d'autres sont pris dans le guépier. Nous voyons ce que d'autres sont en train de subir, d'activer, d'affronter, sans savoir ce qu'il se passe pour chacune, pour chacun. Nous voyons une fille boitée, ce n'est pas celle du début du départ du serpent, c'est une jeune femme suante et blessée, nous parlons avec elle. Nous voyons des gens l'emmener en une chaise de bras, faire ce que des humains savent faire, s'occuper les uns des autres quand il y a besoin. Nous voyons la scène et cela ressemble à trop de choses déjà vécues et cela ne ressemble à rien de déjà vécu pourtant. Nous voyons la scène de loin, nous ne sentons pas les fumées. Nous voyons passer des gens, aller vers le tertre ou en revenir. Nous voyons des gens revenir avec un trou dans la jambe, avec une main sur l'œil. Déflagration, conflagration, effulgence. Il faut se souvenir, ce n'est pas évident, les images se mêlent, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Observer un paysage, sortir l'œil de son orbite, glisser l'œil hors du soleil. Le paysage pourrait être de sable, ce désert-là est de roc. Rochers, dolmens, menhirs, sculptures de géants, draperies de grottes géantes, baroques, poussière noire, la forêt par milliers d'hectares vers l'ouest a brûlé, poussière grise, l'eau a trop ruisselé, ravinée. Écrivait et voyait une cinéaste dans le pays lointain. Maintenant, le pays est là, il s'étend devant nous, il se présente, il s'annonce. Le pays est plat, trop jaune, il brûle nos yeux. Dans le pays déjà sec, des gens arrachent à d'autres leur part. Mutilation des lieux, mutilation des corps. Mutilation des yeux, mutilation des vies. Mutilation des cornets, des mollets, des trachées. Mutilation des gens, mutilation des peaux. Mutilation des présents, mutilation des avenirs. Mutilation des peurs, des colères et des espoirs. Si la peur est mutilée, comment composer encore avec elle ? Parce que la peur mène la danse et nous pousse à venir encore, à ne pas se rendre, à être là avec nos corps. Comment rester entier, comment rester présent, comment rester vivant, comment rester relié. Comment rester incarné? Comment rester vivant si des êtres décident d'assassiner les gens, d'assassiner les terres? Comment rester incarné sans possibilité de nourrir nos présents et de nourrir nos terres? Comment rester incarné tout en risquant tout, tout en vivant tout, tout en se protégeant de la folie sèche et racornie de certains? Comment rester incarné dans les champs déjà morts? Comment réparer ce qui a été si fort abîmé? Il faut arroser, il ne faut pas arroser, il faut laisser le ciel arroser la terre, il faut laisser la terre être arrosée, il faut qu'il puisse tourner le monde, que puisse tourner l'eau entre les nuages et les sols assoiffés, il faut lui donner l'apaisement, lui laisser le fleurissement, lui offrir la présence mouillée, lui faire confiance, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas l'eau qui produit la forêt, mais la forêt qui produit l'eau. Il faut se souvenir, il faut se souvenir. Le ciel commence à ras de terre, écrivait un écrivain. Le souvenir recommence à chaque récit, arrosé par l'eau que nous lui permettons de boire. Retour aux sources, sentir au sourd l'important, et la terre qui est celle nourrissant les rêves. Au retour, lorsqu'après le mauvais spectacle trop réel de fumée mystificatrice et de gens habités d'inquiétude pour la vraie vie en cours et de gardiens de l'ordre au service de l'agro-industrie malade de ses propres produits, nous avons marché encore. Nous avons marché, une voiture s'est arrêtée, nous a emportés. Silence épais, visage épais, cœur lourd. Dire à mi-voix qu'il y a eu des blessés, trop de blessures, trop graves. Qu'ont-ils vu de trop près? Qui et qu'ont-ils sauvé, tous ces gens qui étaient là pour prendre soin des autres dans les fumées puantes du présent dévastateur? Chaque geste compte, chaque soin compte, chaque œil regarde, chaque goutte. Ce qui est maintenant et ce qui sera, ce qui ne sera pas et ce qui pourra être, ce qui devra encore être affronté, ce qui devra être affronté encore, ce qui nous arrivera encore, encore. Il faut arroser, il ne faut pas arroser, il faut laisser le ciel arroser la terre, il faut laisser la terre être arrosée, il faut que puisse tourner le monde, que puisse tourner l'eau entre les nuages et les sols assoiffés, il faut lui donner l'apaisement, lui donner le fleurissement, lui offrir la présence mouillée, lui faire confiance, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas l'eau qui produit la forêt, mais la forêt qui produit l'eau. Il faut se souvenir. Il faut se souvenir. Thank you.
météo. Terre.
Alerte météo, terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte météo.
Alerte.
Alerte météo, terre. Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo, terre.
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer et sur terre.
Petite histoire et grande question.
Alerte.
Alerte, météo terre.
Sortir de là, plus qu'à faire qu'à arracher ça.
Emmène-moi